Voilà, nous lisons dans les Actes des Apôtres, d'abord au chapitre 2, les versets 42 à 47. Ce sont les nouveaux convertis après la Pentecôte. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et un peu plus loin, au chapitre 4, les versets 32 à 37. La solidarité des croyants. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement », un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Priez pour Samuel. Amen. Merci Seigneur pour Samuel. Merci pour ce que tu lui as mis à cœur de nous apporter. Nous savons une chose, c'est qu'il va l'apporter de façon vivante et nous nous réjouissons d'apprendre ce qu'il a à nous dire. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Bienvenue à chacun et à chacune. J'aimerais bien vous saluer dans votre langue, mais ça c'est un peu plus difficile. Mais je sais que Dieu va pouvoir aussi, par le Saint-Esprit, vous donner l'occasion de repartir avec des paroles vivantes que vous aurez reçues. Merci à la lecture biblique. Et ces textes, on l'a entendu, sont tout indiqués parce que c'est le prolongement de la Pentecôte que nous venons de célébrer, en fait, il y a quelques semaines. Et dans cet élan, eh bien, j'aimerais faire ressortir quatre vérités qui sont les suivantes. La première, puisque le thème de ce culte, c'est « moins solitaire, plus solidaire ». Je vais essayer de faire marcher le truc. C'est pas grave. Pas grave. Dans cet élan, donc, voilà, j'aimerais faire ressortir quatre vérités et c'est les suivantes. Le don du Saint-Esprit doit faire de nous des êtres solidaires. Nous ne pouvons pas avoir reçu le Saint-Esprit et rester solitaires. Une autre chose, c'est que la solitude s'efface dans la présence de l'Esprit. Il n'y a pas de solitude dans la présence de l'Esprit. Une troisième chose, c'est que l'égoïsme ne peut pas cohabiter avec la présence de l'Esprit du Seigneur. Et la dernière chose, la quatrième, Eh bien, c'est que l'Esprit du Seigneur manifeste toute sa richesse dans la communauté. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Pentecôte doit impacter nos vies si nous voulons ressembler à Jésus. Si mon désir de ressembler à Jésus, eh bien, la Pentecôte, l'Esprit de la Pentecôte doit impacter ma vie. Vous savez probablement tous que dans les Actes, Actes chapitre 1, le verset 8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans toute la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. » Et dans ce verset, il y a quelque chose d'important à pouvoir recevoir, c'est justement cette notion de « vous recevrez et vous serez ». Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous deviendrez solidaires, concernés par ce que mon prochain est en train de vivre. Recevoir et être, c'est extrêmement important. Et je comprends, et la Bible vient le confirmer, que si nous ne recevons pas l'Esprit, eh bien nous ne pouvons pas être de vrais témoins en fonction du verset que nous venons de lire juste avant. C'est pour cette raison que Jésus insiste auprès de ses disciples pour qu'ils restent et qu'ils attendent à Jérusalem, puisqu'ils devaient recevoir quelque chose qui leur avait été promis. Avant d'entrer dans un appel missionnel qui est pour chacun le même aujourd'hui, eh bien, Jésus leur a dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous aurez reçu cette grâce. » Et ensuite, dans cet appel missionnel, il y a cette notion de « aller et faites de toutes les nations des disciples. » Faites-les en quelque sorte, faites-les entrer dans cet élan de solidarité qui ne peut pas rester caché aux yeux des hommes, puisque cette solidarité, et on l'a entendu dans la lecture que Pascal nous a fait, forcément a un impact dans le lieu où nous vivons. Ce qui impacte dans les lectures que nous avons faites, que Pascal nous a fait, c'est qu'il est dit qu'il n'y avait plus de nécessiteux parmi eux. C'est le verset 34. Plus de personnes étaient nécessiteuses parce qu'ils faisaient partie des personnes qui partageaient les choses. Et une autre chose magnifique, c'est dans le verset 47, ils avaient la faveur du peuple. Ce qu'ils vivaient et ce qu'ils faisaient, eh bien le peuple qui les entourait était quelque chose qui leur permettait d'avoir la faveur du peuple. Et je crois que c'est juste extraordinaire de savoir que ce qu'ils vivaient se témoignait à l'extérieur et le peuple qu'ils le voyaient vivre, eh bien, était reconnaissant, et non seulement reconnaissant, mais ils étaient solidaires avec ce qui était dit. Je crois qu'il est important de savoir que le Saint-Esprit n'est pas un accessoire. Il est important de savoir que le Saint-Esprit n'est pas optionnel. Il est primordial, et Jésus nous le rappelle, pour remplir la mission à laquelle nous sommes appelés tous et toutes, quels que soient nos âges, quelles que soient nos études, quel que soit notre degré ou d'intelligence. Nous avons tous, et nous devons tous, si nous voulons suivre le Christ, entrer dans cet appel missionnel, celui de pouvoir aller annoncer la bonne nouvelle à chacun. Et je crois que c'est important de se rappeler aujourd'hui qu'il n'est pas l'apanage ou l'exclusivité des pentecôtistes, mais qu'il est central pour chaque personne qui désire suivre Jésus-Christ. Après ces quelques éléments que j'avais à cœur de vous partager, eh bien j'aimerais revenir à nos disciples de Jésus qui étaient rassemblés, je vous le rappelle, dans l'obéissance et dans l'attente de recevoir ce que Jésus avait promis. Et quand Jésus promet quelque chose, il le donne. Et je crois que c'est pour ça que nous pouvons nous confier et nous fier justement aux promesses de la parole de Dieu. Quand Jésus promet quelque chose, eh bien il le donne. Et c'est pour cette raison que les disciples sont dans l'attente, parce qu'ils savent que Jésus leur a promis quelque chose, et quand Jésus promet quelque chose, eh bien il le donne. Ils sont, nous dit la Bible, 120, tous au même endroit, et on le sait dans la lecture du chapitre 2 d'Actes, eh bien que Matthias a remplacé Judas pour être au nombre de 12. Vous savez que Judas a trahi le Christ et puis il s'est enlevé la vie. Et puis ils ont nommé quelqu'un d'autre pour être à sa place. Et c'est ce quelqu'un d'autre, eh bien c'est Matthias. Alors je ne sais pas si vous savez comment s'est passé le changement ou l'élection de Matthias dans le groupe. Mais moi, à chaque fois que je lis ce texte, eh bien je suis perturbé. Je suis perturbé parce que je verrais bien les disciples remplacer un autre disciple, de prendre du temps pour prier, de prendre peut-être du temps pour jeûner, pour être sûr que la personne qui va remplacer Judas soit vraiment la personne qui soit nommée par Dieu. Les versets 23 et 26 nous rapportent qu'il y a justement ces deux candidats, et puis un qui s'appelle Joseph, appelé Barsabas, et Matthias. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Au-delà de ce que je pourrais penser en tant que disciple de ce qu'ils feront, eh bien ils vont faire une prière et ils vont dire au Seigneur: tu connais les cœurs de tous, désigne celui que tu as choisi. Ensuite, ils ne vont pas se retirer dans le silence pour entendre ce que Dieu veut leur dire, ils ne vont pas jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. En tout cas, le texte ne le mentionne pas. Ce que le texte dit, c'est qu'ils vont faire une prière et ensuite, ils vont tirer au sort. Vous ne trouvez pas surprenant? En tous les cas, moi, je trouve surprenant et je suis interpellé quand je lis cela. Même, je dois avouer à quelque part que ça me dérange. Je ne trouve pas ça très chrétien de tirer au sort pour savoir qui viendrait remplacer Judas. Et pourtant, on le voit, et le texte nous le dit, ils ont fait une prière, ils ont tiré au sort, et puis Matthias, qui a été tiré au sort, va devenir le remplaçant de Judas. Il n'y a pas eu besoin de faire une lettre de motivation, il n'y a pas eu besoin de faire un CV, il n'y a pas eu besoin de faire encore un petit stage pour être sûr que c'était vraiment celui-là qu'on voulait. Il y a eu une prière, il y a eu un tirage au sort, et puis le tour était joué. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les disciples de l'époque étaient efficaces et quel gain de temps il y avait pour pouvoir remplacer quelqu'un dans son importance. Chose qui est importante, c'est de se rappeler qu'ils sont tous dans la solidarité et ils attendent. Et ils attendent quoi? Ils attendent que l'Esprit vienne sur eux. Un des premiers effets de l'Esprit reçu, et ça c'est important, surtout aujourd'hui quand on va parler de ces remises de certificats pour les leçons de français, eh bien un des premiers effets de l'esprit reçu va être l'antidote de la tour de Babel. Alors qu'à la tour de Babel, tout à coup, les personnes ne pouvaient plus communiquer ensemble parce que tout d'un coup, ils avaient tous un autre langage. Eh bien à la Pentecôte, le texte nous dit que les disciples pouvaient communiquer avec des gens qu'ils n'avaient pas connus ou qu'ils ne connaissaient pas, ni même la langue qu'ils ne connaissaient pas. Et pourtant, à ce moment-là, eh bien, les disciples peuvent commencer de communiquer avec toutes ces personnes qui sont autour d'eux. Et je trouve extraordinaire de voir qu'effectivement, l'un des premiers effets de l'action de l'Esprit, c'est de pouvoir nous permettre de communiquer les uns avec les autres. Et cette magnifique illustration va nous rappeler que justement l'Esprit va permettre le dialogue pour devenir solidaire et ne pas demeurer solitaire dans sa propre langue ou dans son propre langage. Alors bien sûr, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la Pentecôte puisque vous la connaissez, mais ce rappel ce matin est important de savoir que un des premiers aspects de l'esprit, c'est d'être l'antidote de la tour de Babel et de venir une occasion pour une compréhension commune. Nous avons aussi lu que la Pentecôte doit avoir des répercussions dans la vie des disciples, ou va avoir des répercussions dans la vie des disciples, comme elle devrait en avoir dans chacune de nos vies. Si nous sommes dans l'action de l'Esprit, si l'Esprit vient en nous, il doit y avoir une transformation. On ne peut pas rester la même chose après avoir reçu l'Esprit, et on le voit, et dans le texte que Pascal nous a, les textes que Pascal nous a lus, eh bien, c'est clairement défini. Les disciples n'ont pas pu rester les mêmes. Ils ont eu des choses qui ont changé du tout au tout dans leur vie, comme nous aujourd'hui, ces choses devraient changer, pour pouvoir justement amener cet évangile de vie à laquelle nous sommes tous invités. L'idée de la Pentecôte, c'est de nous équiper pour pouvoir aller prêcher l'évangile et de pouvoir le prêcher de manière à ce que ça soit compréhensible, d'avoir des langages clairs, d'avoir des actions ciblées, mais aussi et surtout d'avoir des cultes qui sont accueillants pour chacun et chacune. Et vous le savez aussi qu'à la suite de cette Pentecôte, eh bien, c'est 3000 nouveaux convertis que Pierre va avoir la possibilité de voir. Et je vais m'arrêter quelques instants sur cette personnalité de Pierre, puisqu'il illustre de la meilleure manière le thème de notre message de ce matin, moins solitaire, plus solidaire. Est-ce que vous savez pourquoi Pierre est vraiment l'exemple même de cet homme solitaire qui devient solidaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Pour le comprendre, eh bien, il faudra revenir juste avant la crucifixion du Christ. Le coq a chanté et Pierre se souvient des paroles de Jésus. Et cette prise de conscience va être tellement confrontante pour lui que qu'il va se dévaloriser lui-même, qu'il va s'exclure, qu'il va s'enlever complètement du groupe. Et il va se sentir comme un moins que rien. Il va en fait, après ce chant du coq, eh bien, il va se sentir complètement exclu et il va être, ou il va devenir cet homme solitaire. Mais il y a quelque chose de juste extraordinaire, et c'est pour ça que j'aime bien cette image et j'aime bien cette histoire, c'est qu'il y a une parole particulière qui va faire de ce Pierre solitaire devenir un Pierre solidaire. Et cette parole, eh bien, elle se trouve dans Marc 16, le verset 7. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre, puisqu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il l'a dit. Allez dire à ses disciples et aussi à Pierre. Alors peut-être que si vous êtes attentif ou attentif, vous allez vous rendre compte que Pierre était un disciple. Pourquoi il faut encore rajouter « allez dire à ses disciples et aussi à Pierre » ? Eh bien justement, c'est parce que Pierre lui-même s'était désolidarisé de ce disciple qu'il était. Il ne se sentait plus digne. Il se sentait plus digne d'être appelé un disciple de Jésus-Christ. Et quand cet homme dit « allez dire à ses disciples et aussi à Pierre », eh bien cette parole va le rendre tout à coup de nouveau solidaire et le réintégrer dans sa position de disciple de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'il va devenir cet évangéliste juste incroyable. Alors qu'il était complètement solitaire, alors qu'il était complètement esselé, triste, dégoûté de lui-même, de ce qu'il avait été capable de faire, eh bien, il va devenir solidaire. Et de cette solidarité, eh bien, il va devenir cet évangéliste incroyable qui, après un message, eh bien, il y a 3000 nouveaux convertis qui vont devenir de nouveaux chrétiens. Je crois que ce qui est extraordinaire, et c'est ce que la Bible nous rappelle aussi, c'est que c'est une parole vivante, et que cette parole vivante nous rappelle aussi que l'expérience que Pierre a vécue peut être mon expérience aujourd'hui, peut être ton expérience aujourd'hui. Peut-être que de ce que tu as vécu, de ce que tu as été, peut-être que toi aussi tu te sens pas digne d'être un disciple parce que ce que tu as fait, ce que tu as dit, qui t'appartient, eh bien, tu t'es mis de côté, comme Pierre lui-même s'est mis de côté. Eh bien, aujourd'hui, cette nouvelle, elle est aussi pour toi de savoir qu'il y a possibilité de redevenir, non plus rester dans cette solitude, mais de solitaire, redevenir solidaire avec les autres. Quel que soit ce que tu as fait, quels que soient tes actes, quels que soient tes blasphèmes, comme Pierre l'a été, hein, juste incroyable, un homme qui était avec Jésus, un homme qui l'a suivi, qui voulait mourir avec lui, qui en quelques heures est tellement changé qu'il va commencer même à blasphémer et dire qu'il ne connaissait pas Jésus. Et ce n'est pas à moi ou à nous de lui lancer la première pierre, puisqu'on sait que quelquefois on est capable de choses juste incroyables. Et ce rappel de ce matin nous dit, ne reste pas dans ta solitude, mais reviens dans cette solidarité parce que Jésus a payé pour toi. L'action de l'Esprit dans nos vies désire que nous puissions être aussi solidaires avec nos collègues de travail, avec les personnes qui vivent dans le même immeuble que nous, avec les personnes qui sont de la même famille que nous. Jésus, qui a été solidaire, avec tout ce qu'il a vécu dans son ministère, juste avant d'avoir été crucifié, il est devenu solitaire. Il a dû tout laisser tomber, il a été abandonné de tous, nous dit la Bible, pour pouvoir mourir ou pour être crucifié sur la croix. Et puis, s'il a vécu cela, eh bien c'est justement pour que nous puissions exactement vivre le contraire. Dans nos solitudes, Ésaïe 53, le verset 6 nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Autant résumer qu'en fait on était tous solitaires dans chacun de nos coins de vie, pour ensuite entrer dans une solidarité de la grande famille des enfants de Dieu, et cette possibilité nous est donnée par le sang de Jésus. Et une autre des répercussions du baptême d'esprit, c'est cette faim et cette soif de la parole de Dieu. Une autre encore, c'est ce désir de cette communion fraternelle qui change quelque chose dans nos cultes, dans nos lieux communs, dans nos rencontres communes. Sachant que, quoi qu'il en soit, le meilleur est à venir. Et sachant aussi que si nous recevons une action de l'Esprit dans nos vies, que nous recevons ce baptême d'Esprit dans nos vies, ce n'est pas pour rester dans la solitude, mais c'est pour devenir solidaires de notre communauté. Puisqu'il est dit que si nous recevons des dons de l'Esprit, c'est pour les mettre au service les uns des autres. C'est pour pouvoir veiller les uns sur les autres. Et rappelons-nous aussi que cette action de l'Esprit dans nos vies ne nous laisse pas juste les bras ballants en train de se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais qu'elle nous donne une impulsion pour devenir sensible à ce qui se passe dans mon immeuble, à ce qui se passe dans ma rue, à ce qui se passe dans ma ville. Pour terminer, j'aimerais juste nous rappeler aussi que l'Esprit nous équipe pour être en marche et pour rencontrer justement ceux qui souffrent de solitude, ceux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du salut. Parce que chose extraordinaire, qui que nous soyons, eh bien, 2 Timothée 1, le verset 7 nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. » Dieu veut faire de toi une personne capable de pouvoir témoigner de Jésus et de témoigner de ce message extraordinaire que Christ est mort pour moi et qu'il est ressuscité pour moi. Alors ne laissons pas ce cadeau dans son emballage, mais accueillons-le avec reconnaissance. Donnons-lui l'occasion de pouvoir nous utiliser, parce qu'il désire nous utiliser. Et c'est dans cette attitude de pouvoir nous laisser utiliser que nous allons être solidaires et pouvoir combattre la solitude. Parce que la vraie solidarité ne fait pas qu'à seulement des besoins matériels, comme on l'a vu dans le texte, mais aussi des besoins psychiques, des besoins spirituels de chacune des personnes. Et j'aimerais nous encourager avec ce verset de Galates pour conclure. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen.